CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Et allez, on poursuit cette édition du magazine d'actualité avec aujourd'hui en studio Christiane Marre de l'Université des Savoirs Partagés. Bonjour Christiane.
Bonjour.
Aujourd'hui, accompagnée de Raymond Laurière de la Société d'archéologie de Villefranche. Bonjour Raymond Laurière.
Bonjour.
En studio pour nous parler de cette conférence d'exception avec le retour de Jean-Claude à Villefranche de Rouergue. L'USP a lancé l'invitation à ce monsieur renommé pour ses savoirs autour de la grotte Chauvet, une découverte majeure dont on va parler dans un instant. Je crois savoir une conférence attendue, Christiane Marre.
Oui, il est déjà venu en décembre 2011 pour il avait traité de l'art rupestre dans le monde.
Ah.
Et donc aujourd'hui, il revient pour nous parler plus précisément de la grotte Chauvet, qui est une des plus anciennes grottes ornées d'Europe, puisque il y en a d'autres en Australie, mais là, celle, la grotte Chauvet, vraiment en Europe, c'est la plus ancienne grotte ornée.
Jean-Claude, à qui on a demandé un rapport d'expertise lors de la découverte en 1994, la grotte Chauvet, qui s'appelle pas exactement la grotte Chauvet, hein. On le dit comme ça, mais c'est quoi le nom précis?
Alors, c'était Vallon-Pont d'Arc, puisque c'était la
localité, grotte Chauvet, Vallon-Pont d'Arc.
Voilà.
Un mot sur peut-être, Christiane Marre, sur, avant de laisser la parole à Raymond Laurière, sur le caractère exceptionnel de ce lieu. Un mot sur Jean-Claude, son parcours, qu'il est précisément pour les auditeurs.
Alors, bon, Jean-Claude a été conseiller scientifique pour l'art préhistorique au ministère de la Culture. Il a été directeur des antiquités préhistoriques de la région Midi-Pyrénées. Et ensuite, à cette époque-là, il était aussi président du Comité international d'art rupestre. Il a aussi été, c'était le principal spécialiste des grottes ornées et rattaché au ministère de la Culture. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'il a été appelé par Jean-Marie Chauvet, qui était alors gardien des grottes de l'Ardèche. On a fait appel à lui pour qu'il vienne un petit peu voir cette grotte 10 jours après sa découverte. Et c'est lui qui a dirigé l'expédition scientifique jusqu'en 2002 à l'intérieur de cette grotte qu'il a fait fermer d'ailleurs tout de suite au public pour qu'on n'ait pas les mêmes problèmes qu'à Lascaux, hein, avec les visites du public qui dégrade le CO2, dégrade les peintures. Cette grotte était dans un état extraordinaire, puisqu'un éboulement l'avait préservée depuis il y a 22 000 ans. Donc elle était dans un état extraordinaire. Il l'a fait fermer, mais maintenant on peut toujours visiter son fac-similé 2 kilomètres plus loin. Et au millimètre près, il paraît que c'est... En tout cas, la visite du fac-similé est extraordinaire.
Une belle idée. Coûteuse, mais une belle idée.
Voilà. Et j'étais allée le visiter avec Monsieur Laurière, qui avait organisé la sortie.
Avec la Société d'archéologie de Villefranche.
La Société archéologique de Villefranche l'avait organisée. Et donc, je remercie Monsieur Laurière de bien avoir voulu venir présenter la grotte Chauvet. Et je lui laisse la parole.
Oui, sur ce qui fait peut-être le caractère exceptionnel de cette grotte.
Alors il y a plusieurs choses qui font un caractère exceptionnel, c'est d'abord la qualité des peintures qui est absolument extraordinaire, et je pense que les peintres actuels et tous ceux que l'on connaît actuels n'ont vraiment rien à envier à ces ancêtres qui ont peint ces grottes, d'autant plus qu'il faut se mettre dans les conditions dans lesquelles ils ont réalisé ces peintures, la lumière qu'ils utilisaient. Ouais, mais la qualité au point de vue artistique est absolument époustouflante. Et époustouflante, je ne dis pas que c'est mieux que Lascaux, mais on est quand même 15 000 ans encore avant. Donc la notion d'art se pose et surtout s'affirme comme étant présente déjà à cette époque. Alors, ce qu'on appelle l'art préhistorique, en fait, une notion relativement récente, puisqu'elle a à peine un siècle, hein, et ce n'est qu'au début du 20e siècle, voire à la toute fin du 19e, que les préhistoriens de l'époque ont pris conscience de la qualité de ces peintures et ont parlé d'art. Il faut bien dire que la première, par exemple Altamira, en Espagne, il y avait des peintures absolument extraordinaires, qui sont toujours d'ailleurs, Mais le découvreur d'Altamira n'a même pas porté attention. Et il s'est intéressé au matériel qu'il a trouvé dans la grotte. Et ce n'est que plus tard, donc, avec l'abbé Breuil et surtout Émile Cartaillac, qu'on a parlé d'art préhistorique. Voilà. Alors il se trouve, pour répondre à votre question, que l'art préhistorique pose beaucoup de problèmes parce qu'il a essentiellement des représentations animales. Voilà. Il n'y a pas de représentation humaine, ou du moins très peu, et qui sont purement suggérées et purement symboliques. Voilà. On ne trouve que des représentations animales, et différents animaux.
Mammouth, félin, rhinocéros.
Le plus fréquent, ce sont le bison et le cheval. Mmh. Bison, cheval, puis aurochs, cerfs, mammouth, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les animaux chassés à cette époque ne sont quasiment pas représentés, en particulier le renne, né, qui était la consommation quotidienne de nos ancêtres, n'est absolument pas représenté. Il n'y a aucune représentation de végétaux, aucune représentation de sites, de ciel, de nuages, de montagnes, de paysages. Il y a également une représentation fréquente, c'est la représentation des mâts. Hein, tout ce qu'on appelle les mâts négatives et positives, et qui est peut-être un élément important dans l'hypothèse dont on parlera tout à l'heure. Bon. Et il y a également quelques pictogrammes, mais là, dans Chauvet, on n'a pas de mains, de ces représentations de mains, on n'a pas de pictogrammes. Bon. Les pictogrammes, comme on peut voir pas tellement loin de chez nous, hein, à Cougnac ou à Cabreret, voilà, et qui sont interprétés comme étant des représentations d'ethnie, étant donné que il est vraisemblable que les gens se sont succédés dans la grotte. Il y a une définition qui intéresse, enfin un commentaire d'un grand préhistorien actuel qui dit ces grottes, c'est en fait l'œil du chasseur et la main de l'artiste. Voilà, donc je pense que ces deux choses, ces deux éléments traduisent bien ce que l'on voit. L'œil du chasseur, en fait, tient au fait que la représentation est la représentation animale qui est souvent plus suggérée que réelle, que réelle, hein, c'est pas un tableau comme on peint un pot de fleurs, montre que l'observation des animaux de nos ancêtres a été particulièrement a eu beaucoup de sagacité, et ils ont représenté ce qui fait la caractéristique de l'animal. Et cette représentation, faut bien dire, un peu comme je disais au début, a été faite très rapidement. C'est une représentation gestuelle qui a été faite d'un seul jet, un peu comme nos peintres abstraits des dernières décennies. Donc là où on peut s'interroger, c'est sur la qualité, sur le pourquoi 36 000 ans avant notre ère, ils avaient déjà une telle possession du geste, et donc pour représenter ces animaux ou les suggérer. C'est absolument extraordinaire, et qui, moi personnellement, m'a laissé sans voix. Voilà, j'ai eu le privilège de connaître les autres, Altamira et Lascaux. Lascaux est un autre genre aussi d'une qualité absolument formidable, mais il n'y a pas dans Lascaux la dimension spirituelle qu'il y a dans Chauvet. Chauvet exhale vraiment une spiritualité formidable, et voilà, et qui montre bien que nos ancêtres n'étaient pas les brutes à transporter des menhirs, etc., et qu'ils avaient une spiritualité comme nous avons nous. Nous, on n'a rien à envier à eux.
Sans parler de polémique, c'est quoi les différentes hypothèses sur l'existence de ce lieu?
Si vous voulez, sur un plan chronologique, dès que les préhistoriens du XXe siècle se sont intéressés, la première interprétation a été l'interprétation qu'on appelle totémiste. Voilà, comme on fait, il y a des totems dans certaines peuplades encore actuellement. Donc, voilà, c'est le bison, ben c'est un totem. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des bisons. Et dans le totémisme se résume à un animal. Donc c'est une théorie qui perd un peu de sa véracité. Ensuite, pendant très longtemps, on a dit c'est ce qu'on appelle la magie de la chasse. On représente un bison avec une flèche, comme il y a dans certaines grottes, ou d'autres animaux blessés avec des flèches. Donc ça veut dire que on invoque les dieux, on invoque la chance, pourvu que demain je puisse tuer un bison. Voilà. En fait, cette magie de la chasse, comme je disais tout à l'heure, qui est vraisemblablement partiellement exact, ne tient pas dans la mesure où, comme je vous disais, on ne représente pas de renne, alors que le renne était la nourriture habituelle à cette époque-là, hein, entre 30 et 40 000. Voilà. Là, donc, la magie de la chasse, ça tient pas trop la route. Ensuite, il y a eu un grand préhistorien français qui s'appelait Leroy Gourhan, milieu du XXe siècle, qui a très bien étudié ça et qui est parti dans une qui a proposé une hypothèse binaire et une hypothèse sexuelle. C'est-à-dire, voilà, il a dit le bison, par exemple, le bison c'est l'être féminin et le cheval c'est l'être masculin. Et vous voyez d'ailleurs, ils sont associés, donc c'est une représentation sexuelle, binaire, associée effectivement à d'autres représentations comme on voit, vulvaire chez la femme, bon, un triangle, enfin, etc. Voilà. Alors cette hypothèse a tenu un peu la route pendant quelques temps, dans la mesure où, bon, le roi Gourhan était une personne particulièrement respectée et avait une réputation un petit peu nationale, internationale. Et jusqu'en 1996, où Jean-Claude, associé à d'autres, hein, en particulier les Américains et un préhistorien néo-zélandais, a proposé donc ce qu'il est classique d'appeler la théorie chamanique de ces peintures. C'est-à-dire que ces peintures sont en fait la traduction d'un animal qui est un animal esprit et dont l'accès est réservé aux chamans. Voilà. Et donc qui traduit véritablement la dimension spirituelle de la grotte. Voilà. Et qui explique que dans ces grottes, en particulier à Chauvet, on ne retrouve aucune trace de la présence humaine. Il y a un pas ou deux que l'on peut voir, mais il n'y a aucun ossement humain, il n'y a aucun outillage humain, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que des crânes d'ours et des os d'ours. Donc ça traduit bien comme, par exemple, l'agneau, le fameux salon noir de Nyon, où manifestement il y a une démarche. C'est un lieu privilégié, c'est un sanctuaire, voilà, qui n'est accessible qu'après un certain passage, qu'après une certaine distance, en particulier à Nyon. Pour aller au salon noir, il faut faire presque un kilomètre, hein. Voilà, avant de déboucher dans le salon où on va trouver les animaux et où on va pouvoir les toucher. D'où la présence de ces mains négatives et ces mains positives dont je vous parlais tout à l'heure. Et on peut penser que ces mains, en fait, comme à Gargasse, puisque c'est la grotte où il y en a le plus, il y en a 200 ou 300, hein, je crois, et ou comme à Cabreret, tout près de chez nous, la main servait donc à entrer en contact avec l'au-delà. Mmh. Voilà.
Des sigles, des symboles, au-delà des peintures d'animaux, alors la main, mais est-ce qu'il y a d'autres choses?
Alors, il y a d'autres choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les pictogrammes. Mmh. Alors là, les pictogrammes, c'est aussi extrêmement intéressant, parce que les pictogrammes, donc, qui sont des représentations géométriques, purement abstraites, que l'on voit dans notre art contemporain actuellement, qui est fait dans bien des cas de pictogrammes, ce qu'on peut appeler le pictogramme, c'est-à-dire de représentations abstraites, des carrés, des ronds, des points, etc., etc. Voilà. La théorie actuelle, comme je vous dis, c'est que les pictogrammes peuvent être interprétés comme la marque d'ethnie. Voilà. C'est une hypothèse qui est défendue par beaucoup de gens actuellement, en disant, voilà, il y a eu des ethnies différentes qui se sont succédées, et chacun a voulu marquer sa marque, et il était reconnaissable, identifiable par un carré, un rond, etc., etc. Voilà. Moi, pourquoi pas, je suis pas du tout opposé, mais je trouve aussi que c'est une représentation abstraite, moi que j'aurais tendance à rapprocher de nos artistes contemporains. Et quand on voit Chauvet, en dehors de cette démarche spirituelle qui est absolument prodigieuse, parce qu'il y a un crescendo quand on est dans cette grotte qui fait qu'on commence à voir des animaux et puis on arrive à la fin dans cet immense salon où vraiment qui est très ordonnancé avec des lions, avec des chevaux et même avec au fond une espèce d'alcôve, une espèce de petite chapelle, dirons-nous. Moi personnellement, je me suis vraiment senti dans une église. Bon, j'ai bien l'habitude de rentrer dans les églises. Là, j'ai vraiment eu le choc qu'on peut avoir dans une église, dans une grande église romane, voire gothique. Hein. Voilà, il y a vraiment ce côté spirituel qui est formidable et qui fait qu'il faut absolument aller voir cette grotte.
J'imagine qu'on expertise encore, qu'on cherche encore. Est-ce qu'on trouve encore certaines choses ou
voilà,
on est sur des hypothèses?
Il y a des choses qui vont se trouver encore, c'est certain. Je pense pas que ça va apporter des changements importants. Bon, à Chauvet, il est certain que, bon, sans... Monsieur Clot rentrera plus dans les détails. Il y a des représentations de lions beaucoup plus fréquentes que dans d'autres grottes, de chevaux, tout ça. Des mammouths, il n'y en a pas tellement beaucoup. Il n'y en a pas tellement. Il y a quelques représentations qu'on voit guère ailleurs. Hein, la chouette, par exemple,
oui,
on voit
le
pas.
Hibou.
Le hibou. Mais bon, c'est toujours pareil.
Les rhinocéros aussi. Il y a un nombre de rhinocéros, paraît-il, prodigieux.
Prodigieux, voilà, enfin, il y a important.
50.
Mais c'est toujours pareil. Et si vous allez à, par exemple, la grotte Cosquer, il y a la représentation d'un pingouin qui est une représentation absolument unique dans l'art pariétal. Si vous allez à Rouffignac, alors vous avez une collection de mammouths, là, alors attendez, à la fois sous forme de gravure et sous forme de peinture. Donc, pourquoi certains animaux ont été privilégiés à tel endroit ou à d'autres? Bon, peut-être que c'est... Ça tient à la faune de l'époque, à la faune locale et aux périodes de l'époque, étant donné quand même que ça se passe à des... Il y a souvent beaucoup d'écarts chronologiques entre ces grottes.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Même à Chauvet, les peintures ou les sculptures, puisque quelquefois ils dessinent avec le doigt, se sont échelonnées entre 22 000 avant nos jours à 34 000. Donc c'est énorme, comme et ils n'y ont pas tout le temps été. Mais ce que je voulais dire, c'est que Jean-Claude a écrit justement un livre à la suite. Il a écrit des images pour les dieux. Ça va dans,
ouais,
dans
oui,
le
absolument.
Sens de ce que vous disiez.
Absolument.
Et puis aussi que quand on va à Chauvet, les grandes fresques animalières sont tout au fond de la grotte.
Oui,
c'est
oui,
ça,
oui.
Ce qui montre bien que plus on va sous terre,
voilà
plus... Ça donne vraiment l'idée d'un sanctuaire.
Voilà, alors bon, il y en a qui ont parlé de rite initiatique, étant donné que la seule ou une des rares traces humaines que l'on trouve à Chauvet est un pas d'adolescent.
Oui, oui.
Voilà. Alors, il y en a qui ont dit, mais voilà, comment ça se fait qu'il y a le seul truc, c'est un adolescent. Donc, peut-être que la grotte servait de lieu initiatique où on emmenait les jeunes, les garçons, les jeunes garçons, là-bas, pour prendre contact de la réalité, de l'au-delà, d'une présence divine X. Voilà. Et qu'à partir de ce moment-là, ils devenaient des hommes. Et qu'il fallait faire cette démarche.
J'imagine que Jean-Claude aura ce soir un support visuel pour
bien
montrer
sûr.
Au public,
oui.
Sous forme de projection. Conférence proposée à 18h30 au lycée Beauregard. Et c'est une proposition de l'Université Populaire des Savoirs Partagés. On entend la passion et l'émotion aussi et la sensibilité que vous pouvez avoir, Raymond Laurière et Christiane Lauriac.
Madame Marre.
Une conférence d'avance passionnante. Merci d'avoir accepté de prendre un peu de temps pour nous inviter et animer notre curiosité. Merci Raymond Laurière pour le travail.
Avec grand plaisir. Moi, j'y suis allé deux fois à Chauvet, mais j'ai envie d'y revenir. Hein. J'y reviendrai parce que j'ai vécu un moment particulier et la deuxième fois, je l'ai revécu aussi. Et la troisième, j'ai bien envie de le revoir.
On l'a entendu.
Et d'ailleurs, je veux remercier Monsieur Laurière de bien avoir voulu venir présenter la conférence pour l'USP. Mais quand je l'entends parler des grottes
préhistoriques... On vit déjà la conférence.
Voilà, je me suis dit, il faut qu'il vienne.
Ouais. Bon, alors, tant que... Bon, dernier mot, la société archéologique a comme projet pour 2018 d'amener tous les gens intéressés comme ceux qui sont venus à Chauvet, de les amener à Lascaux, puisque Lascaux maintenant a ouvert Lascaux 4, qui paraît-il est une est beaucoup plus complet que les précédentes Lascaux 2 et Lascaux 3. Donc maintenant c'est la grotte intégrale, l'intégralité de Lascaux telle qu'on le on peut le voir.
Eh bien, on reprendra rendez-vous pour en parler.
Voilà, on en reparlera. Et donc, on va essayer, à la société archéologique, d'organiser un voyage, comme on avait fait à Chauvet, un voyage à Lascaux.
C'est noté. Merci Raymond Laurière et Christiane Mar d'avoir accepté cette invitation. Et un beau succès d'avance pour la conférence de ce soir au lycée Beauregard, animée par Jean-Claude, à 18h30. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.